VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 29 avril 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Mohamedou Oumfa.
Pour commencer, les titres.
La France appelle au Mali à reconsidérer la suspension définitive de RFI et France 24.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa salue l'action de la CEDEAO contre les coups d'État.
Au Niger, feu vert pour l'utilisation d'un vaccin contre le paludisme aux enfants de moins de 5 ans.
En RDC, l'OMS n'exclut pas un risque de propagation régionale et internationale du virus Ebola à la suite d'une nouvelle épidémie à Mandaka.
En Ukraine, des tirs de missiles russes ont visé la capitale Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
La France appelle la junte au pouvoir au Mali à reconsidérer sa décision de suspendre définitivement la diffusion des médias français RFI et France 24 dans ce pays. Les détails avec Jacques Aristide.
Paris fait part de sa vive préoccupation. Il s'agit d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans un contexte de tentatives répétées de manipulation de l'information au Mali, affirme le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué publié hier. Il ajoute que ces chaînes diffusent leurs programmes dans le plein respect des principes d'intégrité, d'impartialité et d'indépendance. La diffusion des deux médias audiovisuel français, déjà coupé depuis mi-mars au Mali, a été définitivement suspendu avant-hier, signe d'une escalade des tensions entre Paris et Bamako. France Média Monde, maison mère de RFI et de France 24, dit contester une telle mesure et promet d'utiliser tous les recours possibles. Le gouvernement malien accuse ces médias d'incitation à la haine après la publication de témoignages mettant en cause l'armée malienne dans des exactions présumées contre des civils. La suspension définitive intervient également au moment où l'armée française est montrée du doigt par la junte malienne pour espionnage et subversion après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité d'une base au Mali récemment restituée par la France.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage hier à la CEDEAO pour sa stratégie décisive contre les coups d'État après l'arrivée à Bissau de l'avant-garde d'une force de déstabilisation ouest-africaine. Nanit Talani nous en dit plus.
Après une rencontre avec Oumaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, Cyril Ramaphosa a estimé que l'Afrique devrait prendre exemple sur la CEDEAO qui compte 15 pays membres. Le continent a beaucoup à apprendre de la façon dont la CEDEAO appréhende ce genre de sujet et fait face à une série de coups d'État, a-t-il estimé. Depuis août 2020, des militaires se sont emparés du pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Ces trois pays ont été suspendus des instances de la CEDEAO. La détermination et la capacité à décider de la part des organes dirigeants de la CEDEAO sont remarquables et sont un très bon exemple pour le reste du continent, a ajouté M. Ramaphosa lors d'une conférence de presse commune avec son homologue bissau-guinéen. Bissau a été le théâtre le 1er février de ce que le président Oumaro Sissoko Embalo a présenté comme une tentative déjouée de coup d'État ayant fait 11 morts et liée selon lui au trafic de stupéfiants. Trois jours plus tard, la CEDEAO a annoncé la création d'une force d'appui à la stabilisation du pays.
En Guinée, la justice a annoncé jeudi l'inculpation et la mise en détention de deux ex-dirigeants supplémentaires alors que les poursuites judiciaires pour corruption se multiplient contre les proches du président déchu Alpha Condé depuis le coup d'État militaire de septembre à Conakry.
L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, et l'ex-ministre du Tourisme, Lounseni Camara, ont été inculpés pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption, a indiqué Ali Touré, procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières.
Le Niger a donné son feu vert pour administrer le vaccin britannique RTS,S contre le paludisme aux enfants de moins de 5 ans afin de lutter contre cette maladie qui a tué en 2021 plus de 4000 personnes, a indiqué jeudi le ministre nigérien de la Santé Ilyasu Maina-Sara. Environ 90% des cas de paludisme dans le monde sont enregistrés en Afrique, où 260 000 enfants en meurent chaque année.
L'OMS avait recommandé en octobre 2021 le déploiement massif chez les enfants de ce vaccin, le seul qui a jusqu'à présent montré une efficacité pour réduire significativement les cas, y compris les plus graves de paludisme. Depuis 2019, le Ghana, le Kenya et le Malawi ont commencé à introduire le vaccin dans certaines régions.
Toujours en rapport avec la santé, l'OMS a indiqué jeudi ne pas exclure un risque de transmission régionale et internationale du virus Ebola à la suite d'une nouvelle épidémie de cette fièvre hémorragique à Mbandaka, en République démocratique du Congo. La résurgence du virus dans cette ville du Nord-Ouest a fait 2 morts depuis le 21 avril et à la date du 27 avril, 267 contacts ont été identifiés. À ce stade, il est difficile d'évaluer l'étendue de l'épidémie selon l'OMS.
La Tunisie doit répondre aux inquiétudes concernant son système démocratique avant de pouvoir prétendre à une aide économique internationale. C'est ce qu'a affirmé hier jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Abdulrahman Dia.
Le chef de la diplomatie américaine, qui s'exprimait devant une commission de la Chambre des représentants, s'est dit préoccupé par la prise de plein pouvoir du président tunisien Kais Saied. Anthony Blinken a estimé que la Tunisie devrait tenir au grand minimum les élections parlementaires avant la fin de l'année. Il a dit qu'il était important que la Tunisie reste pleinement éligible à l'aide des institutions financières internationales. L'administration Biden a récemment durci ses critiques contre le président tunisien, appelant fin mars à un retour rapide à un gouvernement constitutionnel dans ce pays, berceau du printemps arabe. La Tunisie a entamé en février des discussions préliminaires avec le Fonds monétaire international, dont les États-Unis sont le principal actionnaire, dans l'espoir d'obtenir plusieurs milliards de dollars pour sauver une économie lourdement endettée, pénalisée par l'inflation et un chômage endémique. Le président tunisien Kais Saied, élu en 2019, a pris les pleins pouvoirs en juillet et s'est arrogé vendredi dernier le droit de nommer le chef de l'autorité électorale à quelques mois d'un référendum et un scrutin législatif que cette instance doit superviser.
La Somalie a conclu jeudi une étape clé de son processus électoral déjà retardé de plus d'un an avec la désignation du président de la Chambre basse du Parlement 2 jours après celle du leader de la Chambre haute, ce qui ouvre la voie à l'élection du président de ce pays de la Corne de l'Afrique, étape finale de cette période électorale troublée, marquée par des violences et une intense lutte au pouvoir au sommet de l'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Kiev a été la cible de frappe jeudi soir en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il est en sécurité mais choqué, a déclaré un porte-parole, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que ces bombardements visaient à humilier l'ONU. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a confirmé 2 frappes sur un quartier de la capitale et le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé un acte odieux de barbarie.
Un peu plus tôt, Antonio Guterres s'était rendu à Boutcha et Irpin, dans la banlieue de la capitale, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. L'ONU fait tout son possible pour évacuer les civils coincés dans l'apocalypse de Mariupol, ville ukrainienne détruite par les combats avec les forces russes, a-t-il notamment déclaré. La Russie poursuit ce vendredi son offensive dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine.
Les enquêteurs ukrainiens ont identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe, a affirmé jeudi la procureure générale d'Ukraine. Ici à Washington, le président Joe Biden a expliqué hier que les États-Unis ne peuvent se permettre de rester passifs face au conflit en Ukraine pour justifier sa demande au Congrès d'une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars, principalement pour livrer davantage d'aide militaire à Kiev.
La croissance américaine a subi un coup d'arrêt inattendu au premier trimestre, le produit intérieur brut se contractant même de 1,4%, mais l'économie reste résiliente, a estimé le président Biden, qui a évoqué des facteurs techniques pour expliquer cette baisse de régime.
Et les démocrates au Congrès américain ont annoncé une initiative législative cherchant à punir les compagnies pétrolières qu'ils accusent d'augmenter injustement les prix à la pompe. Une démarche qui survient au moment où une inflation record pèse sur les espoirs de leur parti alors que les élections de mi-mandat de novembre se rapprochent.
Ailleurs dans le monde, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman ont discuté jeudi à Jeddah des moyens de développer les relations entre leurs deux pays. C'est la première visite de M. Erdogan depuis l'assassinat macabre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, assassinat qui avait refroidi les liens entre les deux puissances régionales rivales.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La société camerounaise de palmeraies rapporte avoir réalisé un bénéfice de 13,7 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Soka Palm a consacré moins de ressources dans les dépenses du personnel l'an dernier par rapport à 2020 et son passif a opéré une baisse d'environ 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement indonésien a annoncé la suspension de toutes les exportations d'huile de palme pour faire face à la pénurie et la flambée des prix de l'huile de cuisine sur le marché intérieur. Au cours du dernier semestre, les prix mondiaux des huiles végétales ont grimpé de 50%. En Afrique, plusieurs pays dépendent de l'Indonésie pour leur approvisionnement, dont l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Nanit Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a lancé le championnat d'Afrique de football scolaire au stade Costa do Sol à Maputo au Mozambique lors d'un événement auquel ont participé des membres du gouvernement, des dirigeants d'entreprises et de football du Mozambique et de la région COSAFA. Le football scolaire est au cœur du développement et de la croissance à long terme du football africain. L'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour faire en sorte que le football africain soit parmi les meilleurs au monde est d'investir dans les écoles et les infrastructures de football pour les garçons et les filles au niveau scolaire, amateur et professionnel, a déclaré le docteur Motsepe le 27 avril dernier lors du lancement du programme de football des écoles africaines. C'est un partenariat impliquant la CAF, les gouvernements africains et les fédérations de football de 41 pays participants. Il comprend également la prestation de cours d'éducation, d'entraînement, de football et de développement des compétences. Le programme a reçu un don de 10 millions de dollars de la Fondation Motsepe. L'Olympique de Marseille a été battu hier soir 3-2 par le Feyenoord à Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. Mais le match retour au Vélodrome peut encore permettre aux Marseillais de décrocher une 6e finale européenne. Arrivés aux Pays-Bas forts de leur série de 10 victoires en 11 matchs, dernier représentant français en Europe, les Marseillais espéraient peut-être un autre résultat, mais ils ont été trop faibles défensivement dans un match qui a vu s'affronter deux équipes joueuses devant et généreuses derrière. Le nom du finaliste se décidera donc lors du match retour jeudi à Marseille. Manchester United et Chelsea se sont neutralisés 1-1 en match avancé de la 37e journée du championnat d'Angleterre de football joué hier. Largement dominateur mais en panne de réalisme, Chelsea n'a ramené qu'un point de son déplacement sur la pelouse de Manchester United, encore sauvé par Cristiano Ronaldo. Pour terminer, les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon, le tournoi du Grand Chelem londonien, affirment n'avoir aucune autre option que de bannir les joueurs russes et bélarusses de la prochaine édition qui se déroulera en juin-juillet en Angleterre. Pour participer au tournoi, les joueurs russes et bélarusses auraient dû remplir une déclaration écrite contre l'invasion en Ukraine, a justifié Ian Hewitt, le président du All England Club, mardi à Londres, où se déroulera la compétition. Il précise qu'il s'agit d'une condition posée par le gouvernement britannique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine au mois de février dernier, le quotidien des habitants de la ville de Goma devient de plus en plus difficile. Les prix des produits importés, voire locaux, ne cessent d'augmenter. Un reportage de notre correspondant au Nord Kivu, Zanem Neti Zaidi.
Il y a hausse des prix de certains produits à Goma. Il y a aussi une anarchie dans cette flambée des prix. Chaque commerçant donne sa propre justification. Innocent Maliabo et Blaise Chombo sont deux tenanciers de boutique.
Un sac de riz est vendu soit à 22 ou à 24 dollars américains, celui du sucre à 66 dollars et un bidon d'huile de 20 litres, je le vends à 48 dollars.
Chez moi, un verre de sucre qui était à 500 francs, je le donne à 600. Mais ailleurs, vous pouvez le payer à 650 ou 700 francs.
Florence Bija, une habitante de Goma, voulait simplement acheter un sac de savon à poudre pour son linge, mais elle rassure ne pas comprendre comment chaque jour le prix varie, et cela d'un vendeur à l'autre, pendant que les taux d'échange restent fixes.
Nous ne comprenons pas comment les articles deviennent de plus en plus cher, alors que le taux de change ne varie pas. Les prix de presque tous les produits ont varié et cela nous déstabilise. La famine devient intense dans la ville suite à cette augmentation des prix des produits sur le marché.
Le secteur pétrolier, qui semble être à la base de toute cette hausse, a aussi un effet direct sur les prix du transport. Les chauffeurs des taxis ne savent plus où donner la tête. Yannick Milema, conducteur des taxibus.
Le prix du carburant est très en hausse. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous achetions 20 litres à 20 dollars, soit 40 000 francs. Aujourd'hui, nous les payons à 60 000 francs. Vu que les clients subissent la même situation de crise économique, nous avons du mal à réaliser nos versements journaliers. La vie devient vraiment difficile.
L'association des pétroliers du Nord Kivu pointe du doigt la politique économique qui ne prévoit pas des réserves stratégiques, autrement dit avoir des stocks pour faire face à des pareilles situations. Certes, gouverner c'est prévoir, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été comme imprévisible pour le monde entier. Providence Muhiga, président de l'association des pétroliers du Nord Kivu.
Sur la structure de prix, il y a une rubrique qui parle de stock de sécurité, où nous payons 23 dollars par mètre cube. Cela devait nous permettre de constituer le stock de sécurité. Dans les pays voisins, ils ont ces stocks de sécurité. Quand au niveau de station ça se termine, on permet aux sociétés qui distribuent le produit d'aller s'approvisionner dans le stock de sécurité, en attendant que les problèmes qu'il y a sur le lieu d'approvisionnement se terminent. Nous n'en avons pas.
Un avis partagé par Johnson Ishara, un économiste, qui estime que la guerre en Ukraine a poussé plusieurs pays à ne plus exporter des biens, de peur d'en manquer pour eux-mêmes, ce qui impacte négativement le quotidien des Congolais.
Il y a des aliments aujourd'hui qui coûtent cher parce que même des pays producteurs, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, qui ne reçoivent plus le coût de main de la Russie en termes d'importation et d'exportation, donc ils préfèrent d'abord consommer localement, garder d'abord leur stock de sécurité et sauver ce qu'il faut sauver avant que la situation se stabilise. Il faut réfléchir sur la possibilité aussi de l'autosuffisance alimentaire, de l'autosuffisance économique, mais aussi avoir le plan de contingence dans des cas pareils.
Cette hausse des prix a aussi fait une autre victime par ses dommages collatéraux. Le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, a perdu son poste après une motion de censure des députés de l'Assemblée nationale le 30 mars dernier. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Au Sénégal, malgré l'arrivée de deux bateaux pour approvisionner le marché, le carburant continue à connaître des perturbations dans plusieurs stations-service de Dakar, la capitale. Pour le moment, pas de rupture de stock, mais des tensions à la pompe continuent de secouer le travail de certains acteurs du secteur des transports notamment. Notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
Depuis plusieurs jours, c'est le même spectacle devant les stations-service de Dakar. Il y a toujours de longues files de voitures pour se procurer du carburant. L'approvisionnement en diesel est souvent le plus délicat et difficile car il y a des manques dans plusieurs stations-service. Une situation qui perturbe fortement les professionnels du secteur des transports. Ndiaye est le gérant d'une société qui transporte le personnel de plusieurs entreprises.
En tant qu'automobiliste, on ne peut pas dire qu'on a un plan B. Il faut essayer de rouler avec le plein, parce que là, pour les cargos qui doivent venir, on a une forte demande, mais quand on prend le timing, ça pourrait être difficile avec la gestion économique du transport. Donc, éventuellement, ça pourrait créer des pertes, vu que nos clients ont tendance à rouler avec le plein. Du coup, si on a du mal à recevoir cela, donc c'est sûr que ça va perturber le trafic.
Les livreurs comme Pape Ndao sont aussi victimes de ces perturbations. Ce coursier à moto, très sollicité par les commerçants et autres particuliers, est aujourd'hui à la peine.
Chaque jour, on court derrière les stations d'essence pour se ravitailler en vain. La situation est très difficile et personne ne peut dire à quoi s'en tenir. Parce que nous n'avons que notre travail de livreur et sans essence, on est cuit. On a d'énormes difficultés avec le carburant qui est souvent rare et surtout certaines des stations privilégient les gros porteurs ou les voitures particulières. Ils snobent les livreurs et leurs motos car d'après eux, on n'achète que 1000 francs ou 2000 francs.
Des accusations balayées par les stations-service. Pour le pompiste Ndiogo Faye, ce sont les problèmes de ravitaillement en carburant qui causent des soucis depuis quelques jours.
Des fois, on note des querelles, surtout avec les bouchons qui se créent à l'entrée des stations d'essence. Les gens se précipitent pour acheter du carburant. Souvent, c'est très tendu, mais à notre niveau, la donne est simple. S'il y a du carburant, on leur sert, sinon on croise les bras. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, nos stocks s'épuisent vite. On dépend totalement des camions qui nous livrent. S'ils ne viennent pas, on entre en rupture, ce qui affecte notre chiffre d'affaires qui a considérablement baissé d'ailleurs.
Malgré l'arrivée de deux bateaux d'essence et de gasoil, l'approvisionnement en carburant continue de connaître des perturbations à cause de la très forte demande. Une demande née des spéculations en lien avec la guerre en Ukraine. Sédina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Faure Gnassingbé a annoncé dans un message à la nation des mesures pour contrer la vie chère. Il s'agit notamment des suspensions de remboursement des avances sur salaire, de l'arrêt de la perception des tickets de marché et l'exonération de la TVA sur des produits de consommation. De Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
Dans l'adresse à la nation, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, le président de la République Faure Gnassingbé a indiqué que le monde traverse une conjoncture marquée par une superposition de crises jamais égalées. Il a réaffirmé son engagement pour faire du Togo un pays résilient et poursuivre les progrès réalisés.
Le contexte sanitaire et sécuritaire qui perdure dans tous les pays du monde affecte notre pouvoir d'achat et notre bien-être. Nous devons toujours faire appel à nos valeurs de cohésion et de solidarité pour continuer à préserver les plus vulnérables et ne laisser personne de côté. Les différentes initiatives de protection sociale et de modernisation seront amplifiées.
Dans cette optique, le gouvernement annonce des mesures à l'endroit de certaines catégories de citoyens. Akoda Ayewadan, le porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement suspend à compter du mois de mai 2022, et ce, jusqu'à la fin de l'année, les remboursements de l'avance d'un mois de salaire accordés au début de l'année aux fonctionnaires des secteurs publics, parapublics et aux retraités. Pour compter du 1er mai 2022, et pour une durée de 3 mois, le paiement des taxes de tickets de marché est suspendu dans tous les marchés sur toute l'étendue du territoire national. Concernant les produits locaux, le prix du maïs, sorgho, haricots, petit mil et riz sont plafonnés. Les prix de l'huile végétale, du lait, de la farine de blé et des concentrés de tomates sont plafonnés. Ces produits seront exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, à l'importation.
À l'annonce de ces mesures, les associations de consommateurs disent prendre acte, mais s'inquiètent. Une chose est de plafonner les prix et d'exonérer les produits. Une autre chose est d'assurer le contrôle effectif de ces mesures. Le gouvernement rassure. Akoda Ayewadan.
Le gouvernement invite tous les acteurs au respect de ces prix plafonds. Des contrôles stricts seront effectués par des équipes mixtes sur toute l'étendue du territoire national pour s'assurer de l'effectivité des mesures présentes.
Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpani.
Au Bénin, annoncé depuis quelques semaines, la rencontre entre le président Patrice Talon, les secrétaires généraux des confédérations syndicales et les responsables des organisations patronales a eu lieu le 26 avril. Au cœur des échanges, la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG. Que retenir de cette rencontre? Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Flair Adandé.
La rencontre présidée par Patrice Talon a eu lieu en présence de plusieurs de ses ministres et les secrétaires généraux de 3 confédérations syndicales. D'entrée de jeu, le chef de l'État a planté le décor en soulignant que par ces temps qui courent, échanger sur la question de la revalorisation salariale paraît plus judicieux. Patrice Talon.
Qu'est-ce qui doit primer entre résorber le chômage, recruter beaucoup, satisfaire les besoins de l'administration et les besoins de nos populations à donner plus d'emplois à nos enfants? Est-ce que c'est la première priorité? Est-ce qu'on va augmenter ses salaires dans les mêmes proportions pour tout le monde? Est-ce que celui qui gagne déjà 1 million doit être augmenté dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 000? Est-ce qu'on va augmenter celui qui a 70 000 beaucoup plus? Parce que quand même, on sait que souvent, ils vont sur le même marché. Au marché, ils vont acheter le maïs, le pain, au même prix. Donc, la revalorisation qu'on veut faire, est-ce qu'il ne faut pas même différencier cela sérieusement?
Durant son intervention, Patrice Talon a également souligné que le salaire minimum interprofessionnel garanti passera de 40 000 francs CFA à 52 000 francs CFA. En plus de cela, tous les employés devront bénéficier d'une assurance santé. Après concertation, les syndicalistes ont accepté, mais avec quelques réserves.
Les employeurs acceptent de faire une augmentation de SMIG à 30%. Ce qui nous amènerait à 52 000 francs, mais avec une exigence que nous partageons avec eux sur le coût de l'assurance. Parce que les 52 000 francs, c'est sans l'assurance qui doit s'ajouter. Sur le coût de l'assurance, que le gouvernement accepte de faire une concession, donc de la réduire.
C'est que j'ai vu ça, j'ai vu vos éléments qui nous présentaient ça. Je voulais applaudir que nous n'attendons que ça. Parce que la cherté de la vie, on sait que c'est mondial, mais chez nous ici, ça s'est accentué de telle enseigne qu'on voit que si on ne sortait pas en tant que représentant des travailleurs, que ça ira de mal en pis.
Après cette première journée, les syndicalistes ont évoqué une rencontre qui n'a pas nécessairement porté ses fruits, puisque sur la table du gouvernement se trouve une kyrielle de revendications qui ont été mises de côté. Pire encore, Kassamampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, dénonce quelques irrégularités dans le discours du gouvernement.
Nous avons toujours revendiqué ça. Mais contre toute attente, le gouvernement nous dit que il n'est pas nécessaire de maintenir le principe de hiérarchisation des salaires au Bénin, qu'il faut se contenter tout au plus d'augmenter le SMIG, encore que là, ça n'a pas été facile parce que le gouvernement lui-même n'est pas favorable à l'augmentation du SMIG, parce qu'il estime que donc les employeurs sont asséchés, ils n'ont pas assez de moyens. Mais oui, mais on lui a dit que c'est vrai, les employeurs ont des problèmes. Et les travailleurs? Les travailleurs vont-ils rester au même SMIC à 40 000 qui ne représentent plus rien aujourd'hui?
L'augmentation du SMIC ne sera pas automatique. Le gouvernement a évoqué les incertitudes économiques actuelles dans le monde et s'est engagé pour le mois de novembre 2022 à condition que la situation actuelle ne s'aggrave pas. De Cotonou, Jeanette Adonné pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoulia et Mohamed Houmfa. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno et à la console, Jonah Cummings. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.